Alléluia, gloire à Dieu, prions. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Père dans le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la victoire et la parole vivante et permanente de Dieu. Merci pour le don de la Bible qui nous enseigne dans tout domaine et qui nous fait avancer à tous égards. Au nom du Seigneur Jésus, nous te rendons gloire. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, amen. Alors rappelez-vous, on s'adresse au Père qu'on prie. Hein. On peut parler au Seigneur Jésus, bien sûr. Mais quand on s'adresse au Père, on prie au nom du Seigneur Jésus. On ne prie jamais Jésus-Christ au nom de Jésus. Ça n'a aucun sens. D'accord? Juste que ce soit clair. Et j'aimerais qu'on observe quelques passages des Écritures aujourd'hui. Nous allons continuer cette investigation sur la question de la nation, sur le royaume que Dieu a préparé d'avance pour nous. Vous êtes prêts? À étudier les Écritures ensemble. Parce que la parole de Dieu est ce qui nous fait avancer. Vous voyez, c'est l'ensemble de nos pensées qui font qui nous sommes. Amen. C'est l'ensemble de nos réflexions qui font qui nous sommes. Si vous êtes aujourd'hui qui vous êtes, c'est en raison de vos pensées et c'est en raison de l'image que vous avez. Nous devons donc connaître ce que Dieu dit au sujet de beaucoup de choses et appliquer ces mêmes réalités, les appliquer dans notre vie pour vivre ce que Dieu a pour nous. Amen. Vous pouvez prendre 2 Chroniques, chapitre 9, versets 1 à 4. 2 Chroniques, que je vais utiliser la version Darby. 2 Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament. Chapitre 9, versets 1 à 4. Et la reine de Sheba entendit parler de la renommée de Salomon. Et elle vint à Jérusalem pour éprouver Salomon par des énigmes, avec un fort grand train et des chameaux qui portaient des aromates et de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Et elle vint vers Salomon et parla avec lui de tout ce qu'elle avait sur son cœur. Et Salomon lui expliqua toutes les choses dont elle parlait. Il n'y eut pas une chose cachée pour Salomon, pas une chose qu'il ne lui explique. Donc il y a une femme qui vient visiter Salomon, de l'Ancien Testament. Vous suivez? Elle vient voir Salomon, elle lui expose tous les problèmes qu'elle peut rencontrer. Alléluia. Et elle dit à Salomon, voilà, j'ai ça comme problème. J'ai ça comme situation. J'ai ça comme cas à régler. Et Salomon lui explique tout. Continuez juste, verset 3. Et la reine de Sheba vit la sagesse de Salomon. Comment est-ce qu'on voit une sagesse? La Bible dit que la sagesse remplit la maison du juste de bonnes choses. La sagesse portera des fruits qui sont visibles à l'œil. Vous aurez des plus belles apparences, des plus belles choses quand vous marchez dans la sagesse. La reine de Sheba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Elle aimait de sa table. Et la tenue de ses serviteurs, et l'ordre de service de ses officiers, et leurs vêtements. Notez que c'est une reine cette femme, hein. C'est pas la première venue. Hein. Okay. Et ses échansons, et leurs vêtements, et la rampe par laquelle ils montaient dans la maison de l'Éternel. Notez bien ce qui est écrit, c'est très très révélateur. Il n'y eut plus d'esprit en elle. Regardez, vous voyez ce qui est écrit? Mettez vos yeux sur les Écritures. Hein. Il n'y eut plus d'esprit en elle. Cette femme venait d'une culture où il y avait vraisemblablement de l'idolâtrie. En tout cas, ce n'était pas des gens qui adoraient Jéhovah. Ça, c'est sûr. N'est-ce pas? Ce n'était pas des gens qui adoraient Dieu. Ce n'est pas des gens qui adoraient Yahweh, l'Adonai ou l'Éternel ou Elohim. Vraisemblablement, cette femme était sûrement possédée d'esprits méchants. Et la Bible nous montre, quand elle a vu la richesse de Salomon, les démons l'ont quittée. C'est quand même quelque chose, hein? Il n'y eut plus d'esprit en elle. Alors bien sûr, l'interprétation classique qu'il donne, c'est qu'elle a eu le souffle coupé. Mais la traduction littérale, c'est pour ça que j'ai exprès pris la version Darby, c'est « Il n'y eut plus d'esprit en elle. » Les démons qui l'oppressaient. C'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle elle est venue, parce qu'elle a dit qu'elle avait des problèmes à exposer à Salomon. Ça veut dire quelque chose, hein? Donc je ne sais pas exactement quel démon l'oppressait, mais il y avait des esprits méchants qui l'oppressaient. Ils ont quitté au moment où elle a vu la richesse. Vous vous rendez compte qu'elle a juste vu des maisons, et en plus, c'était une femme de haut rang. Et elle a vu la richesse, la prospérité financière de Salomon, et les démons n'ont pas supporté la prospérité, et ils sont sortis. Vous imaginez un petit peu que vous marchez dans une telle richesse financière que les gens démonisés, les démons sortent au moment où ils voient votre voiture, au moment où ils voient votre maison, au moment où ils voient vos vêtements. Vous imaginez un petit peu ? C'est ce qui est arrivé ici. Amen. C'est beau, hein ? Maintenant, vous allez prendre Matthieu, chapitre 12, et verset 42. Matthieu, chapitre 12, et verset 42. Nous pouvons rester dans la version d'Arby. Donc, Jésus fait tout un discours, là. Et l'argument en pressant Jésus-Christ, c'est qu'il dit, il parle aux Juifs et il dit, vous pensez être quelqu'un de bien, vous pensez être des gens bien. Il dit, vous pensez être des gens bien parce que vous avez été choisis et que vous êtes la descendance physique d'Abraham. Il a dit, vous plaisantez. Et dans le contexte, il dit, il expose plusieurs personnes et il dit, ces gens-là vous jugeront et vous devanceront dans le royaume de Dieu. Alors que ces gens-là ne sont pas juifs. Prenons même le verset 41. Prenons le verset 41. Des hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront. Car ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Donc il dit, ces gens-là ont pu se repentir avec une petite prédication de Jonas. Et maintenant, ici, il y a plus que Jonas. Ensuite, il dit, une reine de Midi, alléluia, ça c'est la reine de Sheba qu'on vient de lire, une reine du Midi se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des bouts de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Ce qui veut dire que les choses qui ont rendu Salomon riche, les choses qui ont rendu Salomon sage, plus que n'importe quelle personne de l'histoire jusqu'à lui, nous avons plus en Jésus-Christ que Salomon. Alléluia. Vous pensez que Salomon avait beaucoup, hein ? Quand vous regardez l'or qu'il avait, l'argent qu'il avait, la sagesse qu'il avait, la prospérité qu'il avait, eh bien, nous avons plus en Jésus-Christ. Plus, DJ plus. Et j'aimerais qu'on observe quelque chose, parce que on va voir, c'est un passage un petit peu long des Écritures. C'est tout le chapitre 2 de Daniel. Mais on est à l'église, on étudie la Bible. Amen. Daniel, donc pour le contexte, vous rappelez donc Moïse a fait sortir les Juifs d'Égypte pour les faire rentrer en Israël. Ils prennent possession du pays et, comme Dieu l'avait prédit, les Israélites ne suivent pas le Seigneur et Dieu les condamne à un exil de 70 ans à Babylone. Et là, il se passe que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, et quand on étudie les écrits prophétiques, on se rend compte que Dieu a utilisé cet homme pour exercer le jugement. Ce n'est pas dire que c'est forcément un homme de bien en soi, mais il a été utilisé par Dieu pour exercer le jugement. Regardez, Daniel chapitre 2, verset 1. On va lire ensemble, vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Je vais lire donc Daniel chapitre 2, verset 1. « Et en la seconde année du règne de Nebuchadnezzar songea des songes, et son esprit fut agité, et son sommeil le quitta. » Alors si jamais dans certaines traductions, vous pouvez voir Nabucodonosor, ça peut dépendre, c'est la même personne, c'est juste une expression, une manière de traduire. Et le roi commanda d'appeler les devins, et les enchanteurs, et les magiciens, et les chaldéens, pour exposer au roi ses songes. Et ils vinrent et se tinrent devant le roi. Et le roi leur dit, j'ai songé un songe, et mon esprit est agité pour connaître le songe. Et les chaldéens dirent au roi, au Syriaque, ô roi, vis à jamais. « Dis le songe à tes serviteurs et nous en indiquerons l'interprétation. » Le roi répondit et dit aux Chaldéens, « Écoutez bien, dis-nous ton rêve et on va te l'interpréter. » Le roi répondit et dit aux Chaldéens, « La chose est pour moi prononcée. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son interprétation, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. » Donc il dit, « C'est trop facile, vous voulez que je vous donne mon songe et que vous donniez une interprétation. » Non, non, si vous êtes vraiment des devins, vous devez savoir quel est le songe que j'ai eu sans que je vous le dise. Et ils répondirent pour la seconde fois et dirent « Que le roi dise le songe à ses serviteurs, et nous en indiquerons l'interprétation. » Le roi répondit et dit, je sais très certainement que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose est par moi prononcée. Or, si vous ne me faites pas connaître le songe, il y a un seul et même décret pour vous. Et il dit, tout magicien, tout enchanteur, tout devin que vous êtes, vous allez subir le même sort. Car vous avez préparé une parole mensongère et perverse pour la dire, devant moi, en attendant que le temps ait changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai que vous pouvez m'en indiquer l'interprétation. Il dit, vous voulez être dans le surnaturel, alors montrez-vous maintenant. Allez, les devins. Les Chaldéens répondirent devant le roi et dirent, il n'existe pas un homme sur terre qui puisse indiquer la chose que le roi demande. C'est pourquoi aucun roi, quelque grand et puissant qu'il soit, n'a demandé une chose pareille, d'aucun devin ou enchanteur ou chaldéen. Et la chose que le roi demande est difficile. Notez qu'il n'a pas dit impossible, il a dit difficile. Mais par contre, derrière, il dit un mensonge. Et il n'existe personne qui puisse l'indiquer devant le roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas avec la chair. À cause de cela, le roi s'irrita et se mit dans une très grande colère. Très grande. Et il commanda de détruire tous les sages de Babylone. Babylone, il ne parle pas de la ville, il parle de l'entier de l'empire. Tous les gens sages, tous les philosophes, tous les devins, les magiciens devaient tous être mis à mort. Et un décret fut promulgué portant que les sages soient tués. Et on cherchait Daniel et ses compagnons pour les tuer. Alors Daniel répondit avec prudence et avec sens à Arioc, chef des gardes du roi. Donc il y avait un chef des gardes du roi qui s'appelait Arioc, qui était sorti pour tuer les sages de Babylone. Il répondit et dit à Arioc, le grand officier du roi, pourquoi ce décret est-il si rigoureux de par le roi ? Alors Arioc fit connaître la chose à Daniel. Et Daniel entra et demanda au roi de lui accorder du temps pour indiquer au roi l'interprétation. Il dit, ô roi, donne-moi une seconde, je vais aller interroger les dieux. Alors Daniel s'en alla à sa maison et fit connaître la chose à Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer de la part du Dieu des cieux ses compassions au sujet de ce secret, afin que Daniel et ses compagnons ne soient pas détruits avec le reste des sages de Babylone. C'est intéressant parce que c'est Dieu qui a envoyé le rêve. Bien sûr, nous maintenant, en tant qu'enfants de Dieu, on n'est plus guidés par les rêves. Mais à l'époque, les gens l'étaient. Et comprenez dans les contextes que c'est Dieu. Pourtant, c'est Daniel qui a dû aller demander à Dieu quelque chose. De la même manière que nous avons reçu l'esprit aujourd'hui, petit parallèle rapide, c'est à nous d'activer ces choses qui sont dans notre esprit. Suivez bien. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision de la nuit. Notez qu'il n'a pas fait un rêve, il a fait une vision. La Bible distingue les deux termes. Alors Daniel bénit le Dieu des cieux. Et Daniel répondit et dit, il répondit, c'est intéressant ça. Il a répondu au Seigneur, ça veut dire que Dieu lui parlait. Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité, car la sagesse et la puissance sont à lui. Et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. C'est lui qui révèle les choses profondes et secrètes. Il sait ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure auprès de lui. Toi, Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue parce que tu m'as donné sagesse et puissance. Vous imaginez l'audace ? Une personne qui parle comme ça aujourd'hui serait jetée dehors de 95% des églises. Et que nous, on a plus que lui. Et que maintenant, tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Nous y avons fait connaître la chose que réclame le roi. C'est pourquoi Daniel ôtera auprès d'Arioc que le roi avait établi pour détruire les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne détruis pas les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et j'indiquerai au roi l'interprétation. Alors Arioc fit entrer Daniel en hâte devant le roi. Et lui parla ainsi. J'ai trouvé un homme des fils de la captivité de Juda. Vous vous rappelez, je vous ai dit ils avaient été emmenés captifs, qui fera connaître au roi l'interprétation. Le roi répondit et dit à Daniel, dont le nom était Beltéjastar, « Peux-tu me faire connaître le songe que j'ai vu et son interprétation ?» Daniel répondit devant le roi et dit, « Le secret que le roi demande, les sages, les enchanteurs, les devins, les augures n'ont pu l'indiquer au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et fait savoir au roi Nebuchadnezzar tout ce qui arrivera à la fin des jours. » Notez ce qu'il a dit. « Qui indique au roi tout ce qui arrivera à la fin de son règne ? » Non, à la fin des jours. Intéressant ça. Donc ça veut dire que le rêve du roi Nebuchadnezzar est en rapport avec la fin des temps. Intéressant. Continuons. Ton songe et les visions de ta tête sur ton lit, les voici. Toi, ô roi, tes pensées sur ton lit sont montrées dans ton esprit. Ce qui doit arriver si après, et celui qui révèle les secrets, te fait savoir ce qui va arriver. Et quant à moi, ce n'est pas de quelque sagesse qui sont en moi plus qu'en tous les vivants que ce secret m'a été révélé. C'est afin que l'interprétation soit connue du roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Intéressant, il y a des gens qui ne connaissent pas les pensées de leur cœur. Curieux, hein? Et les gens qui ont l'Esprit de Dieu qui leur parle, ils ne savent pas que c'est l'Esprit de Dieu. C'est à nous de l'interpréter. C'est pourquoi quand vous allez dans la rue pour parler à des gens, vous savez que l'Esprit de Dieu a déjà commencé à leur rendre ministère. Vous êtes la réponse. Dites, je suis la réponse aux gens. Toi, ô roi, tu voyais, et voici une grande statue. Donc là, il dit, tu as vu une grande statue. Cette statue était grande et sa splendeur extraordinaire. Et elle se tint devant toi et son aspect était terrible. Oh, quelle merveille. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu vis jusqu'à ce qu'une pierre se détachât sans main. Ça veut dire qu'aucune main a poussé cette pierre et elle tombe dans on ne sait pas où. Et elle frappa la statue dans ses pieds de fer et d'argile et les broya. Alors furent broyés ensemble le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or. Donc toutes les parties de la statue se sont effondrées. Et ils devinrent comme la balle de l'air d'été. Et le vent les emporta et il ne se trouva aucun lieu pour eux. Et la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. C'est là le songe et nous en dirons l'interprétation devant le roi. Toi, ô roi, tu es le roi des rois, auquel le Dieu des cieux a donné le royaume, la puissance, la force et la gloire. Et partout où ils habitent, les fils d'hommes, les bêtes des champs et les oiseaux des cieux, il les a mis entre tes mains et t'a fait dominer sur eux tous. Toi, tu es cette tête d'or. Ah ! Donc il dit, c'est toi, cette tête d'or. Et après toi s'élèvera un autre royaume inférieur à toi, puis un troisième et un autre d'airain qui dominera sur la terre. Donc il dit, ces cinq membres distincts de matières distinctes sont des royaumes. Et toi, tu es le principal, la tête d'or. Et le quatrième royaume sera comme le fer. De même que le fer broie et écrasera tout et que le fer brise toutes ces choses, il broiera et brisera. Et selon ce que tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile, de petits en partie de fer, le royaume sera divisé. Donc il dit, ce royaume en fait des pieds est divisé après un moment. Très intéressant. Et il y aura en lui de la dureté du fer. Selon ce que tu as vu, le fer mêlé avec l'argile grasse. Et quant à ce que les orteils des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, le royaume sera en partie fort et en sera en partie fragile. Donc il explique, voilà, c'est un royaume qui va être et fort et fragile. Et dans les jours de ces rois, le Dieu des cieux établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Écoutez bien. Et ce royaume ne passera point à un autre peuple. Il broiera et détruira tous ces royaumes, mais lui, il subsistera pour toujours. Selon que tu as vu que de la montagne, la pierre s'est détachée sans main. Donc il dit, il y a une montagne. Et la pierre est tombée de cette montagne. Et ce dernier royaume qui va tout broyer, c'est cette pierre. Regarde bien. Elle a broyé le fer, l'airain, l'argile, l'argent, l'or. Le grand Dieu fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. Et le songe est certain et son interprétation est sûre. Donc il dit à cette grande statue qui représente cinq royaumes. Toi, tu es le royaume au top. Et les quatre autres royaumes représentent des autres empires qui vont suivre. Mais chacun de ces empires va être broyé et détruit par le nom du Seigneur Jésus. On va vous expliquer, mais cette pierre, c'est Jésus. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Vous imaginez un peu ça ? C'est un esclave, eunuque. Et le roi se prosterne devant cet homme. Et commanda de lui présenter une offrande et des parfums. Et le roi répondit et dit à Daniel, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » C'est intéressant parce que les Babyloniens n'avaient pas du tout le concept de la monothéité, du monothéisme. Donc ils ont dit, « Ah alors, vraiment, ton Dieu, c'est le top des dieux. » Il n'a pas dit « Je renie mes dieux », il a juste dit « Ton Dieu, c'est le top top des dieux, le meilleur Dieu. » Et le révélateur des secrets, puisque tu as pu révéler ce secret, alors le roi éleva Daniel en dignité et lui fit beaucoup de grands dons et l'établit gouverneur sur toute la province de Babylone et grand intendant de tous les sages de Babylone. Et Daniel fit une demande au roi qui établit Shadrach, Meshach et Abednego sur les services de la province de Babylone. Et Daniel se tenait à la porte du roi. Maintenant, on a vu, donc, Daniel interprète ce rêve. Ce n'est pas lui qui a fait le rêve, il l'interprète. Et dit, il y avait donc tous ces grands empires. Il y avait la tête d'or qui était Babylone. Il dit clairement, c'est toi. Donc ça part de Babylone. Et ensuite, il dit, ces grands cinq empires ont été tous défaits par une grande pierre. Et cette pierre les a broyés. Elle n'est pas juste cassée la statue. Elle les a broyés, réduits à rien. Très intéressant. La tête d'or, c'est l'empire babylonien. Parce qu'il le dit clairement, il dit, c'est toi qui es cette tête d'or. C'est l'empire babylonien. L'empire babylonien était de 605 à environ 539 avant Jésus-Christ. Et rappelez-vous, c'est l'empire de Babylone. Le deuxième empire, c'est la poitrine et le bras d'argent qu'on a vu. C'est l'empire Médo-Perse. Deux bras, c'est la dualité, Médès et Perse. C'est les deux nations qui ont fait un empire ensemble. Et pourquoi en argent ? Parce qu'ils étaient, ils étaient très riches, mais moins que Babylone, qui était en or. Ensuite, le troisième empire, c'est l'empire grec. Alléluia, c'est merveilleux. Conquis par Alexandre le Grand, 161 et 168 avant Jésus-Christ. Les reins symbolisent la force militaire, l'expansion. Le royaume est divisé entre ses généraux après sa mort. Vous vous rappelez qu'il a dit qu'il va diviser ? C'est exactement ce qui s'est produit. Ensuite, les jambes de fer et le pied de fer et d'argile, c'est l'Empire romain. L'Empire romain, donc de 628 avant Jésus-Christ à environ 476 après Jésus-Christ. C'était dur, puissant et conquête, c'était le fer. Rappelez-vous que l'Empire romain, c'est eux qui ont popularisé tous les trucs en fer, à ma connaissance. Hein. Pieds mêlés de fer et d'argile, division, fragilité dans l'unité. Rappelez-vous le nombre de fois que dans l'Empire romain, ils ont essayé de tuer le César. D'ailleurs, César, ce n'est pas un prénom. Hein. César, c'est un titre, pour votre connaissance générale. Ça veut dire empereur. C'est comme roi, en fait. C'est un titre, César. C'est pour ça qu'il y avait Auguste César, Jules César, ça vous dit quelque chose ? C'était, César, ce n'était pas un prénom. Souvent, on dit « Ah, César !» Non, César, c'était le titre de l'empire, de l'empereur de Rome. Et la pierre détachée son main, c'est le royaume de Dieu. Alléluia ! Ce royaume brise tous les autres et remplit toute la terre. Il est éternel, inébranlable et supérieur à tout pouvoir humain. Il réduit en poussière n'importe quoi, le royaume de Dieu. Alléluia ! Et Jésus reprend cette même image. Il faut comprendre un truc. L'Ancien Testament a été écrit en hébreu de l'époque. Parce que l'hébreu aujourd'hui qu'on a, vraiment l'hébreu est une langue très intéressante, parce que l'hébreu est la seule, à ma connaissance, ou en tout cas la seule qu'on connaît, la seule langue morte qui est revenue à la vie. Vous savez ça ? C'était une langue morte, morte, morte. Elle n'était plus parlée. Et dans les années, je crois, 1800 et poussière, un homme a réactivé l'hébreu et ils ont commencé à le reparler. Vous imaginez ? Après presque environ 1500 ans où l'hébreu était mort. À vérifier exactement 1500 ans. Et ce qu'il s'est passé, c'est ça, c'est que l'Ancien Testament a été écrit majoritairement en hébreu. Pourquoi ? Parce que c'était des prophètes juifs, israélites, n'est-ce pas ? Maintenant, il faut savoir. L'Ancien Testament, notamment à cause des gens comme Daniel qu'on voit là, il a commencé par influencer l'ensemble du Moyen-Orient, de l'Europe, une grosse partie d'Afrique et une grosse partie de l'Asie. Les textes de l'Ancien Testament ont touché beaucoup de monde. Ok ? C'est pour ça qu'à Alexandrie, donc en Égypte, vers, je crois, 300 avant Jésus-Christ, ils ont ordonné que l'Ancien Testament soit traduit en grec, qui était l'anglais un peu de l'époque, où tout le monde parlait grec. Vous voyez un peu l'idée ? Ils ont dit, on va le traduire en grec. Et en fait, la traduction grecque de l'Ancien Testament est parfois plus précise que la traduction hébraïque qu'on a aujourd'hui, parce que la traduction hébraïque qu'on a aujourd'hui est un hébreu plus moderne, vous voyez, que la traduction, que l'auteur original de l'hébreu. D'accord, donc très intéressant. Et il faut savoir, il y a une raison pour laquelle, vous savez les rois mages qui arrivent comme ça, ça dit quelque chose à tout le monde les rois mages ? Tout le monde connaissait les rois mages qui arrivent vers Jésus puis qui... Comment ça se fait que des mecs qui viennent d'Orient savaient exactement que Jésus allait naître comme ça ? Parce qu'ils avaient lu ça dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament avait traversé beaucoup de civilisations, pas juste les Israélites. Comment ça se fait qu'en Éthiopie, encore aujourd'hui, l'Éthiopie, le christianisme a touché l'Éthiopie avant l'Europe ? On pourrait même dire que le christianisme a touché l'Afrique avant l'Europe, si on y réfléchit. Vous saviez ça ? Intéressant, hein ? C'était arrivé bien avant. Très intéressant, ça. À se poser des questions. Si le christianisme est bel et bien une religion globale. C'est beau, ça. Hein ? C'est marrant, ça. Hein ? C'est clair que c'est les... Et d'ailleurs, si vous regardez l'histoire de l'Afrique, c'est très intéressant. Plus de la moitié des Africains, très général, je prends vraiment toute l'Afrique, je prends aussi l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. J'ai inversé, pardon, Afrique du Nord et Afrique du Sud, je fais l'inverse. Si vous regardez l'Afrique, c'est très intéressant, il y a plus de chrétiens, n'est-ce pas ? Et à contrario, les doctrines chrétiennes sont rentrées par l'Éthiopie, pas par les missionnaires et la colonisation. Alors, il y a aussi eu un aspect comme ça, bien sûr, mais le christianisme est rentré via l'Éthiopie. Pourquoi ? Parce que la reine de Séba était éthiopienne, celle qui a été voir Salomon. Elle était éthiopienne. Sachez-le. Donc cette reine, dans 1000 ans avant Jésus-Christ, vient d'Afrique, c'est pour ça qu'elle vient de loin. Le Midi, c'est très loin, c'est une expression d'époque pour dire loin. Et aussi une direction, soit dit en passant. Donc elle arrive et elle entend Salomon. Certaines personnes pensent qu'elle a eu des enfants avec Salomon. Certaines disent ça, je ne sais pas si c'est vrai, la Bible ne dit pas en tout cas, mais il y a des gens qui disent ça parce qu'on a retrouvé beaucoup d'écrits juifs traduits dans la langue locale de l'époque. Donc en fait, c'est pour ça que Jésus-Christ dit, cette reine d'Éthiopie, elle va juger les gens en bien, elle va juger avec Christ. Vous vous rendez compte, quel honneur. Il dit, cette femme qui est venue de loin en Éthiopie. D'ailleurs, l'Éthiopie de l'époque était un empire, ce n'était pas l'Éthiopie le pays aujourd'hui, hein. Ça englobait beaucoup plus. Et ça vous dit quelque chose, un moment, dans la Bible, je crois que c'est dans Actes chapitre 13, il y a cet homme, un eunuque éthiopien, ça vous dit quelque chose? L'eunuque éthiopien. Il était intendant des richesses d'Éthiopie, la Bible dit. Donc c'est un homme très... Vous savez, souvent, la Bible dit qu'il a été rejoint dans un char et on imagine un petit char tranquille avec deux bœufs et tout. La Bible dit que c'était le responsable de toutes les richesses de l'Empire. Je peux vous garantir que son char était plus un truc en or ou un truc comme ça. C'était pas le premier venu. Et cet homme éthiopien a ramené le christianisme en Afrique. Dans les années 40, et je dis pas 1940, je parle des années 40, vraiment la 40e année après la naissance du Christ. Peut-être un an après la résurrection du Christ, il était déjà arrivé et Paul s'est converti après. Et environ 10 ans après, il est allé en Europe, à Rome. C'est beau, hein? Donc pour tous ceux qui disent, une fois j'ai entendu un musulman qui disait « Le christianisme est une religion de blancs. » Ok, alors c'est aussi une religion de blancs parce que le christianisme est pour tout le monde, amen. Mais je vous garantis qu'il est arrivé en Afrique bien avant. Et je vous garantis que Jésus n'était pas blond aux yeux bleus. Jésus était sémite. Il avait un teint hâlé, un peu olive, comme ça, vous voyez. Oh, gloire à Dieu. Donc cette femme, cette femme d'Éthiopie, elle a entendu la sagesse de Salomon au point que les Éthiopiens allaient et adoraient le vrai Dieu. 1000 ans après, vous imaginez? Mais bref, donc, qui est cette pierre? Parce qu'il dit, donc il y a tous ces empires qui se sont succédés. D'ailleurs, le christianisme est ce qui a réduit l'empire romain à rien, sachez-le. Il a réduit l'empire grec à rien. Il a rendu, c'est Dieu qui est derrière la déclinaison de tous ces empires historiques. Ça veut dire quelque chose, Néron a essayé de tuer tous les chrétiens de Rome. Il prenait les chrétiens vivants, il leur mettait le feu et il les torchait vivants, comme torche vivante. C'est un homme fou. Et ces grands hommes et femmes de Dieu de l'époque louaient le Seigneur pendant que ça arrivait. Et il en devenait fou. Ça, c'est l'histoire, ce n'est pas la Bible qui dit, ça, c'est l'histoire. Il hurlait, il disait, faites-les taire. Comment peuvent-ils chanter à Dieu alors qu'ils se font déchirer par des lions? Amen. Le christianisme est beau, puissant. Et donc, il dit à cette pierre qui tombe de haut, d'une haute montagne qui vient écraser tous ces empires, et cette pierre établit une montagne qui est elle-même un royaume. Alléluia. Regardez, vous êtes prêts? Le terme grec utilisé par Daniel, c'est le terme que vous avez déjà entendu, parce que ça a devenu un prénom en français, Basiléa. Basiléa en grec, qui veut dire un royaume. Et Jésus utilise l'exacte même expression dans Matthieu, chapitre 21 et verset 43. Regardez, alléluia. Matthieu, chapitre 21 et verset 43. Vous êtes là? Gloire à Dieu, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Chapitre 21 et verset 43. Alléluia. Où il est dit? C'est pourquoi je vous dis que le royaume Basiléa de Dieu vous sera ôté et sera donné à une nation qui en rapportera les fruits. Mais regardez les fruits que c'est. Parce que cette pierre qui a déroulé, qui a détruit cette statue que Nebuchadnezzar a vue, je trouve fort intéressant que cette pierre est elle-même devenue une montagne à côté de laquelle la statue aurait paru ridicule en termes de taille. Combien de gens sont aujourd'hui part du corps de Christ? Et le corps de Christ, on parle du corps mystique de Christ, c'est-à-dire tous les gens qui croient en Jésus-Christ comme étant Dieu venu en chair, mort pour les péchés et ressuscité des morts. Ça veut dire toute doctrine chrétienne, quelle qu'elle soit, si les gens croient à ça, ils sont sauvés. Vous avez entendu ce que Pasteur Chris a dit au sujet de la mort du pape? Mais surtout, il a dit, le pape actuel a commencé à changer les choses dans l'Église. Et il y a une question qu'on se pose, est-ce que les catholiques sont sauvés? Parce qu'il y a par exemple, si vous observez vraiment la doctrine catholique, il y a des choses qui vont à l'encontre directe des Écritures. L'adoration à Marie, par exemple. La Bible interdit formellement de faire une chose pareille. La prière des saints. La Bible, à un moment, elle se moque des gens qui prient les saints. C'est dans Job, ça. Il dit, qui vas-tu prier? Un saint? Ils l'ont dit, vous voyez un petit peu, ils s'en moquent, ils rigolent de ça. Vous voyez un petit peu l'idée? Ces choses qui... Alors, la question, elle est vite répondue. Il faut distinguer l'organisation ecclésiastique qui est l'Église catholique et les gens qui vont au culte à l'Église catholique. Ou à la messe, ils appellent ça la messe. Pourquoi? Parce que peut-être que l'organisation est mal placée et a des intentions qui ne sont pas les meilleures, mais les gens qui y vont, il y a quoi, 1,6 milliard de catholiques, je crois, dans le monde, sont des gens, pour la plupart, qui aiment Dieu sincèrement et qui font partie du corps de Christ. Même chose pour les orthodoxes. Ils font partie du corps de Christ, beaucoup d'entre eux, j'ai envie de dire la plupart. Vous voyez un peu l'idée? Même chose pour les évangéliques. Vous savez que les évangéliques, ils ont aussi des doctrines qui sont graves. Parce que vous voyez, nous, on voit par exemple l'Église catholique qui adore Marie, on dit c'est grave de faire ça. Et oui, c'est vrai, bibliquement, on n'adore pas une figure humaine. C'est d'ailleurs pour ça que Jésus a été souverainement élevé, n'est-ce pas? Et qu'on adore le Christ ressuscité. N'est-ce pas? Vous voyez la nuance? C'est pour ça que Jésus, une fois ressuscité, il a dit « Je suis l'alpha et l'oméga », mais avant, il n'a jamais dit « Je suis Dieu ». C'est d'ailleurs un des arguments des musulmans, c'est Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. C'est faux. Dans Apocalypse, il le dit ouvertement. Je suis à la fin, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Fini. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Il l'a dit. C'est juste pas qu'il l'a dit. Avant qu'il soit glorifié dans la résurrection, il ne l'a pas dit. Mais regardez, il y a des évangéliques et des protestants qui pensent que Dieu contrôle tout et que Dieu envoie les malheurs dans la vie des gens. C'est une doctrine tout aussi grave que d'adorer Marie, ça ne faut pas croire. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y en a des qui vont dire que Dieu cause les viols. Pas juste qu'il les permet, qu'il les veut pour une raison spécifique. On ne sait pas pourquoi. Qui cause la pédophilie, qui cause les meurtres et les terrorismes, les tortures. Il y a des gens qui enseignent ça. Et pourtant, ils n'adorent pas Marie, mais ils sont dans l'erreur sur ce domaine. Donc ce qui veut dire qu'une personne, ce n'est pas une question de compréhension théologique qui fait qu'elle est dans le corps mystique de Christ, c'est une question de sa confession. Vous voyez l'idée? C'est le croire en Jésus-Christ. C'est fini. Bon, le vrai Jésus-Christ, pas le prophète, hein, le vrai. Le Fils de Dieu fait en chair qui est monté ensuite au ciel. Si cette personne croit en Jésus-Christ, elle fait partie du corps mystique de Christ. Simple, hein? Et quand on dit mystique, il ne faut pas comprendre l'aspect religieux bizarre. Mystique, ça veut juste dire spirituel. Hein? Elle fait partie du corps spirituel de Christ. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, protestant, évangélique, catholique, il est vrai qu'il faut faire attention à la doctrine. La doctrine peut être erronée. Et à cause de ça, la Bible dit dans Marc chapitre 7, et je crois aux alentours du verset... Un instant, je vais regarder parce que ça m'intéresse. Marc 7... 13, je crois, à l'instant. Je connais bien ma Bible, mais là, je vais quand même aller vérifier. Oui, c'est bien ça. Annulant la parole de Dieu par votre tradition. Vous voyez? Donc, les traditions théologiques peuvent interrompre la parole de Dieu dans la vie d'une personne. Donc, c'est clair que c'est pour ça que vous allez voir des chrétiens qui sont plus productifs que d'autres. Parce qu'ils connaissent mieux la parole de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et ils appliquent mieux la parole de Dieu. Ça, c'est un truc que je me disais. Je me disais, comment est-ce que nous, dans cette église, on est tous tellement prospères tout le temps? Pourquoi on n'est jamais malade dans cette église? Vous avez réfléchi? C'est une vraie question. Comment ça, la dernière fois que vous avez entendu une personne dans cette église dire « je suis malade » Non, franchement, réfléchissez-y. Depuis le temps, là, les 2 ans que vous venez, comment ça se fait? Est-ce que Dieu a décidé que les membres de l'église ambassade du Christ marcheraient plus en... Non, c'est simplement qu'on connaît la vérité sur ce domaine. Mais il y a des domaines dans lesquels on doit grandir. Amen. Par exemple, si vous prenez l'église orthodoxe, ils ont une mentalité pour la plupart beaucoup plus combative que nous. C'est-à-dire si on ose insulter Jésus, mais essayez seulement alors. Hein. Mais essayez, hein. Essayez de dire juste un truc sur Jésus. Juste un petit blasphème un peu mal placé. Vous allez voir ce qui vous arrive. Hein. Ils vont taper la bouche, des trucs comme ça, hein, je peux vous dire. Hein. Et même un gars dans la rue, hein, ils n'ont aucun problème de le faire. Après, c'est vrai que si on prend l'orthodoxie par exemple, ils adorent les saints. Et ça, la Bible, elle l'interdit clairement. Alors pourquoi ils le font, vous dites? Bon, je ne sais pas. Gloire à Dieu, je ne sais pas pourquoi ils le font, si la Bible l'interdit. Mais ce que je peux dire, c'est que s'ils croient sincèrement en Jésus-Christ, ils sont sauvés. Et ils arriveront au ciel et ils vont dire « Oh mon Dieu, j'adorais les saints ». Dieu va leur dire « C'est pas grave, tu es pardonné ». Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la Bible dit que nous sommes déjà rachetés. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 2, qu'il est la propitiation pour tous nos péchés. Donc même si une personne a confessé Jésus-Christ et qu'elle repêche après, la propitiation est toujours valable pour sa vie. Amen. Donc je suis en train de vous dire quoi? Nous sommes cette nation. L'Église de Jésus-Christ est cette nation forte et puissante. Cette puissante, ce puissant corps, pardon, ce corps glorieux et fort que Dieu s'attend à faire prospérer. Dieu veut notre prospérité, Dieu veut la réussite de l'Église. Pourquoi ? Parce que cet empire qu'est l'Église, ce royaume, ce pays qu'est l'Église, a surpassé tous les autres empires que l'histoire n'ait connus. Intéressant ça. Hein ? Prenez n'importe quel empire, nous on s'étend plus rapidement. Sans armes ni épée, mais avec la parole de Dieu dans notre bouche. Qui est l'épée de la parole ? La Bible dit qu'elle est dans notre bouche telle une épée. Alléluia. Donc nous avançons de tous les côtés. Amen. Comprenez que ce rocher qui est parlé par Daniel, c'est Jésus-Christ. Regardez ça. Prenez Exode 17:6. Je vais lire rapidement parce qu'on arrive vers la fin du culte. « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher de Horeb, et tu frapperas le rocher et il sortira de l'eau et le peuple bloira. » Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 10:4, « Et ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient d'un rocher spirituel qui les suivait. » Écoutez bien, ce rocher était Christ. Alléluia. Donc cette pierre qui est venue et qui a tout écrasé et qui a donné gloire à un grand royaume, c'est Christ. Maintenant, voyons autre chose. Jésus est la pierre vivante et le fondement. Regardez ça. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Mentionnée par, alléluia, par Jésus-Christ, mais il a cité le psaume 118. Vous voyez un peu la profondeur de ça ? Donc il dit, je suis cette pierre qui a été rejetée. Mais avec ça, on a construit l'Église. Alléluia. Dites, je suis la construction de Dieu. Regardez ça. Éphésiens 2:20, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc Jésus est ce rocher, il est cette pierre que Daniel a vue. Amen. 1 Pierre 2:24, approchez-vous de lui, cette pierre vivante rejetée des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Vous devez comprendre à quel point Dieu s'attend à ce que vous soyez productifs dans votre vie pour son royaume, pour sa réussite, pour ce qu'il veut de vous. Regardez, Dieu a prévu des choses absolument, indiscutablement, implacablement belles. La Bible dit qu'il a prévu des choses d'avance afin que nous nous y adonnions. C'est intéressant parce qu'il a préparé quelque chose, mais c'est à nous de nous y adonner. C'est à nous de nous mettre dans ce que Dieu a préparé pour nous. Vous voulez voir ce verset ? Des belles œuvres, mais c'est à nous de rentrer dedans. Ça, c'est intéressant, Dieu ne nous force pas à marcher dans les belles œuvres. Vous savez, Dieu... J'ai lu pas mal, enfin, vous savez, comme vous le savez, je lis ma Bible 3 fois par an, je lis l'ensemble de la Bible. Et il y a toujours ces prophètes où c'est un peu lourdeau parce que c'est que Dieu qui condamne. Il condamne, il condamne, il condamne. Pendant 70 chapitres, il condamne, 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 condamne. Il n'arrête pas. Toi, Néhémiah, tu vas recevoir ça. Toi, Judas, tu vas avoir ça. Toi, les Lévites, tu vas recevoir ça. Toi, tu vas être mis de côté. Toi, on va te tuer, on va violer tes femmes. Ça va il dit des trucs horribles. Il condamne ses peuples tout le temps à la destruction massive parce que c'est des peuples qui faisaient n'importe quoi. La Bible dit qu'ils brûlaient leurs enfants pour les faux dieux. Vous imaginez un peu l'horreur de ces peuples. Et souvent, vous allez voir qu'à un moment, Dieu il stoppe le truc et dit « Croyez-vous que ça me fait plaisir de vous voir souffrir comme ça ? Ne pensez-vous pas que je me réjouirais beaucoup plus que le méchant se repente ?» Vous voyez un peu l'idée ? Intéressant ça, hein ? Donc Dieu est bon, Dieu est bon. Alléluia ! Alors, on va aller prendre, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Vous comprenez ? Dieu a prévu des choses pour vous, mais c'est à nous de les pratiquer. Ce n'est pas Dieu qui va les pratiquer pour nous, il ne va pas nous forcer. Regardez ce qui est écrit. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Parce que j'aimerais que vous compreniez que Dieu, regardez ça, Dieu est le fondement, il est la fondation. Si vous avez déjà vu la construction d'un bâtiment, notamment en Suisse, parce qu'on a beaucoup de lacs et comme ça on fait attention avec les fondations, on va poser des fondations très solides, mais ensuite on va mettre des pierres pour construire. Et la Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. Alléluia pour Christ. Regardez, Éphésiens 2:10, vous avez trouvé ? Car nous sommes son ouvrage. Dites, je suis son ouvrage. Ayant été créés dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Donc ça veut dire que Dieu a préparé des choses pour vous. Dieu a préparé la réussite. Dieu a préparé la prospérité. Dieu a préparé la magnificence, Dieu a préparé la santé, Dieu a préparé ces choses à l'avance pour nous et nous avons été recréés en Jésus-Christ, n'est-ce pas ? Et après il dit « afin que nous y marchions ». Il n'a pas dit « afin que Dieu vous donne un petit coup et hop, vous tombez dedans ». Non, afin que nous y marchions. Donc il dit, Dieu a préparé des choses d'avance et nous qui sommes recréés en Christ, nous devons y marcher. Ça vous dit quelque chose dans l'Ancien Testament où David vient et dit, Seigneur, j'ai à cœur de te construire une maison. Il dit, j'ai envie de construire un temple pour le Seigneur. Et Dieu lui répond, j'apprécie ton intention, mais tu ne pourras pas le faire parce que tu as été un homme de guerre. Et un homme qui a versé du sang ne peut pas me construire une maison. Il dit, c'est donc ton fils. Mais toi, tu vas préparer tout l'argent qu'il aura besoin pour le faire. Pour le contexte, le temple de Salomon, on estime qu'il aurait coûté aujourd'hui 500 milliards de dollars. C'est un truc absolument gigantissime, couvert d'or de tous les côtés, avec des pierres précieuses et des mecs qui bossaient. Il y avait 80 000 tailleurs de pierres qui bossaient sur le projet. Hein. C'est, je vous dis, c'est quand même pas rien. Gloire à Dieu. 80 000, si jamais, c'est la ville de Lausanne, un peu moins. Non, c'est même plus la ville de Lausanne, que je raconte. Donc, vous voyez, il dit, j'ai à cœur de te construire une maison. Qu'est-ce que c'est pour nous, le Nouveau Testament? Parce que nous, on a compris que l'Église elle-même, ce n'est pas là où Dieu réside. D'ailleurs, quand Dieu répond à David et à Salomon, il dit, pensez-vous vraiment me construire une maison, moi qui habite les cieux des cieux? Et dit, pour votre honneur, je vais venir et être dans ce temple que vous avez construit pour moi. Mais aujourd'hui, on a aussi à cœur de construire un temple. On a aussi à cœur de construire une maison pour le Seigneur. Mais qui est la maison du Seigneur? C'est nous! Nous sommes les pierres qui constituent la maison du Seigneur. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu vit en toi, il vit en toi, il vit en toi, il vit en toi, il vit en moi. Il vit en nous tous qui croyons en Jésus-Christ. Et nous sommes des pierres qui, mises ensemble, faisons l'édifice de la maison de Dieu. C'est pour ça que c'est à vous de construire la maison de Dieu en gagnant plus de monde pour Christ. Vous amenez une pierre en plus, vous amenez quelqu'un à l'église, vous amenez quelqu'un à Jésus-Christ. Vous voulez tirer la personne hors de la destruction pour l'amener à Jésus-Christ. Vous la réconcilier avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Cette personne va devenir une pierre dans l'édifice qu'est l'église. Vous voyez un peu l'idée? Et quand je dis l'église, je n'entends pas le bâtiment, bien sûr. Même si c'est beau d'avoir à cœur, d'avoir un beau bâtiment pour servir Dieu, moi je suis tout à fait pour hein, avoir des très beaux bâtiments pour le Seigneur, vous savez, une belle église, genre, le bâtiment, je suis très pour. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui est dedans qui compte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beau d'avoir des grands bâtiments, j'aime beaucoup les bâtiments d'église. D'ailleurs, si vous parlez à beaucoup de gens, ils vont toujours admirer les constructions architecturales des églises traditionnelles, des églises gothiques, les églises orthodoxes pour le coup aussi, catholiques, même protestantes, il y a une très grande beauté dans les églises protestantes. Les églises protestantes étaient construites, même les cathédrales, pour impressionner, vous vous rappelez? Le but, c'est qu'on rentre dedans et qu'on voit, wow, wow, c'est beau ici, qu'on sente tout petit. D'ailleurs, j'ai appris une chose que je n'avais jamais vue, mais que j'ai constatée en regardant. La plupart des églises et cathédrales ont une forme de croix vue du ciel. Je ne savais pas du tout ça. C'est le but, si vous regardez bien, toujours, c'est très long. Ensuite, il y a deux petits trucs ici et l'autel là. C'est volontaire, je ne savais pas ça. C'est un ami qui m'a appris, dont le père est pasteur protestant. Et vous voyez, quand vous amenez quelqu'un à Christ, vous faites de cette personne une pierre de l'édifice. C'est beau, hein? Et je vous garantis que quand vous avez à cœur la maison du Seigneur, qu'on parle de la maison spirituelle ou physique, je vous garantis, comme ça a marché pour David et Salomon, toute prospérité et toute chose vient à vous d'un coup. Rappelez-vous ce que la Bible dit dans Romains chapitre 1 et verset 5, qui vous a donné la grâce et l'apostolat pour l'obéissance de la foi dans les nations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la grâce de Dieu, elle opère en nous. N'est-ce pas? Pour qu'on puisse amener les gens à Christ. Pour qu'on puisse... Voyez, cette personne qui est détruite par la société. Cette personne qui est pauvre. Cette personne qui est malade. Cette personne qui a été détruite par sa famille. Cette personne dont on a parlé des malédictions depuis l'enfance. Et vous, ce que vous faites? Dites, je suis ambassadeur de Christ. Et la Bible dit, car nous sommes ambassadeurs de Christ. Et la Bible dit que notre citoyenneté est au ciel. Ce n'est pas pour rien qu'il dit les deux choses. Hein. C'est intéressant ça. Non seulement notre citoyenneté est au ciel, mais nous sommes ambassadeurs du Seigneur. Donc vous venez, un ambassadeur, il représente les intérêts de son royaume d'origine. Votre royaume d'origine, notre royaume d'origine, c'est le Seigneur, c'est Christ. Et donc vous allez représenter les intérêts de Christ auprès de cette personne. Et vous la prenez comme réfugiée. Elle est dans cette nation de destruction que sont les ténèbres et l'œuvre du diable. Et vous la prenez comme réfugiée et vous lui donnez la nationalité du royaume. Et cette personne commence à sortir de la pauvreté, sortir de la destruction. Vous savez, l'apôtre Paul, il a dit quelque chose d'intéressant. Souvent, les gens pensent que l'apôtre Paul était pauvre. C'est faux. C'est archi faux. L'apôtre Paul était extrêmement riche, extrêmement influençant. C'est pourquoi, quand il a dit « Amenez-moi devant César », ils ont dit « Oui, monsieur, on t'amène devant César immédiatement. » Vous voyez ? Il avait reçu une éducation la plus chère possible d'Israël. C'est intéressant qu'on étudie. Et historiquement, les fabricants de tentes, parce qu'il dit, j'ai une entreprise où on fabrique des tentes, et il le dit à un moment, c'était des gens très riches, ceux qui fabriquaient les tentes. Et oui, très riches. C'est comme si on dirait aujourd'hui quelqu'un qui fait de l'échange de matières premières. On va se dire de base, ou un banquier, n'est-ce pas? Ou un assureur, on va dire, c'est des gens qui gagnent bien leur vie. Et donc l'apôtre Paul, il dit quelque chose, il dit, on paraît pauvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'apôtre Paul, malgré toutes ses richesses, il s'en fichait du vêtement qu'il portait. Vous voyez, c'est ça. On doit être riche, mais pas être attaché aux choses du monde. Vous avez compris la nuance? On doit être très riche. Dieu veut qu'on soit extrêmement riche, mais pas attaché aux choses du monde. Que vous importe la voiture que vous conduisez? Ayez une voiture qui vous convient. Il n'y a pas de mal à même avoir une belle voiture. Si ça se trouve, Dieu va te dire, achète une... Je ne connais pas les marques des grosses voitures. Dites-moi quelque chose, là. Vous... Une Lamborghini. Ah oui, mais je connais bien. Je connais Lamborghini, of course. Je ne sais pas que c'était la top des marques, parce que, bref, peu importe. Prenez une Lamborghini. Peut-être Dieu va dire, achète une Lamborghini, et tu vas devant le MAD, quand il y a tous ces petits jeunes qui sortent, ils vont faire, oh, tu as eu ça doute. Et tu fais, c'est l'évangile de Christ en moi. Et les gens vont dire, oh, mais comment ça, tu veux dire, viens à l'église, au lieu de faire tes trucs débiles, là, aller au MAD. Ils viennent à l'église, tout ça, ils entendent la parole de Dieu, ils font, mais je ne savais pas que Jésus m'aimait. Je vais donner ma vie au Seigneur au lieu d'aller au MAD et je vais vivre pour lui. Et après, vous donnez la voiture à quelqu'un. Et puis vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de mal à avoir des belles choses. C'est qu'on doit pas les, elle ne doit pas nous posséder, nous. Vous voyez la nuance? C'est nous qui les possédons. Donc l'apôtre Paul, il dit, je parais pauvre. Parce qu'en fait, il s'en fichait de quoi il portait. Il s'en fichait un peu de tout parce qu'il dit, je vois tout comme des ordures pour gagner Christ. Mais par contre, il dit, je fais beaucoup de gens riches. Dans le même passage, il dit, on paraît pauvre, mais je rends beaucoup de gens riches. Est-ce que vous rendez les gens riches par l'enseignement que vous leur transmettez? Est-ce que les gens entendent des paroles de sagesse de votre bouche et se disent, waouh, je vais servir Dieu? Et les gens commencent à prospérer dans leurs finances, au lieu d'être toujours pauvres et toujours de ne pas avoir d'argent. Quand votre enseignement leur vient, vous dites, travaille. Vous enseignez les gens à